Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Unfinished Swan sur le PSN et on va parler surtout du gros titre du moment, Hotline Miami. C'est pas du tout violent, c'est pas du tout en 2D, on tue pas du tout tout le monde, mais c'est pas grave. Et on parlera peut-être un peu rapidement à la fin de l'événement jeu vidéo du moment qui est le Paris Games Week en ce moment porte de Versailles. Et je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, oui parce que maintenant hein, c'est fou, c'est presque une tradition. Clément Appab de Sens Critique, bonjour Clément.
Bonjour Erwan.
Et Pipo Mantis de Canard Console, Console Magazine, tout ça, les deux. Bonjour Pipo, Pierre-Alexandre Rouillon, hein, bien
sûr. Bonjour Erwan.
Je t'entends assez faiblement dans mon casque, mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Et on commence avec toi, Clément, avec le nombre de Wii U disponibles en France, notamment.
Ouais, en fait, on sait que d'ici, donc la Wii U sort le 30 novembre prochain, donc quasiment pile poil un mois, à partir de maintenant. Et en fait, on a appris qu'il y aurait donc 240 000 Wii U disponibles d'ici Noël pour la France, ce qui est en fait à la fois peu et beaucoup, donc voilà, si vous la voulez vraiment, on conseille de réserver en tout cas. Mais surtout, le chiffre qui est vraiment marquant, c'est 7,4 millions. Et 7,4 millions, c'est le nombre d'exemplaires de FIFA 13 qui se sont vendus en 4 semaines. Alors c'est énorme, hein, 7,4 millions, pour ceux qui ne connaissent pas les chiffres dans le jeu vidéo, c'est quand même en un mois, c'est vraiment énorme. Mmh.
Surtout pour voilà, c'est pour une itération d'une licence annuelle. Enfin, c'est
qui est ceci dit excellente oui, cette année, hein, oui, qui est vraiment ailleurs. Excellente cette année. Et en fait, Electronic Arts, son éditeur, indique donc que FIFA, à l'instar de Battlefield, est bien parti pour être une licence qui générerait $1 milliard par an. Donc vraiment, on arrive dans des licences à itération annuelle en tout cas pour FIFA.
Ouais.
Qui sont très très lourdes, et parce que $1 milliard quand même de générer, c'est ça commence à être costaud.
Ouais, mais puis de toute façon FIFA trust les premières places des ventes FIFA, dans pas mal de pays.
FIFA en France a atomisé PES cette année, mais vraiment PES est dans la gadoue quoi.
Moi bon, encore ils étaient en bonne position dans les ventes aussi, hein, PES, ce que j'ai pas compris pour le coup, mais
là en France je crois que c'est de 1 à 10 hein, quand même, hein.
Ah oui, voilà. Après,
donc c'est quand même énorme,
donc voilà, on peut donc logiquement s'attendre à un FIFA 14. Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense, ouais.
Pipo, on reste sur EA, on reste sur la Wii U aussi d'ailleurs.
Tout
allez
fait.
Tu fais une compile des deux.
Exactement, on a appris il y a peu de temps dans les conditions, enfin la mise à jour des conditions des CLUF, là, alors je sais plus exactement ce que ça veut
conditions
dire.
Conditions d'utilisation.
Voilà, les conditions d'utilisation d'Origin, que Origin sera maintenant obligatoire pour tous les jeux Wii U de chez EA. C'est-à-dire que donc pour jouer à un jeu EA sur Wii U, il te faudra un compte Origin, ce compte qui donnera à Electronic Arts ton username Nintendo, ton email et ta date de naissance.
Ah là.
Voilà.
Non, mais, ouais, Origin, on le rappelle, c'est un peu le Steam d'Electronic Arts, donc c'est le service.
C'est un peu le cousin débile de Steam.
Ouais. Ouais. C'est, ouais. C'est, voilà, c'est le service dématérialisé sur PC aujourd'hui qui permet de télécharger et de jouer aux jeux IA, entre autres.
Ouais, mais donc ça, mais ça c'est, on l'avait déjà vu, donc on en avait parlé tout à l'heure sur Darksiders.
Forcé à faire un compte THQ.
Non mais, le problème, ça existe depuis très longtemps sur PC. Enfin, on a l'habitude de devoir créer un compte Game for Windows Live, machin, truc, bon, etc. Dieu. Le problème là, c'est qu'effectivement, on en parlait un peu avant, c'est sur console. Sur console, on veut normalement, voilà, c'est une expérience instantanée. Et là, on arrive avec les inconvénients en fait, voilà, des DRM PC.
Voilà, moi j'ai failli pas jouer à Darksiders 2, hein, pour le coup. J'étais là avec, en plus avec le pad Xbox, quoi, se créer un pseudo avec un mot de passe. Alors là, le mot de passe sécurisé, que dalle, hein, parce que tu vas pas.
Bon.
Les majuscules, minuscules, ouais. Caractères spéciaux, non, tu peux pas. Voilà. Le com des coms de la semaine dernière, on commence avec Jurkurpa qui a dit: tiens, c'est marrant, vous avez réussi à bâcher Medal of Honor sans même parler de son gameplay, hormis pour la séquence intro avec le sniper, qui paraît-il n'est pas terrible, terrible. C'est vrai que je me suis un peu tellement emballé sur l'aspect narratif, si on peut appeler ça, de Medal of Honor, que j'ai oublié d'évoquer que le gameplay était quand même un tout petit peu moisi. Moi, je me rappelle encore avec émotion ce moment où on me dit de traverser la rue parce qu'il y a des ennemis et tout ça. Passe par les bâtiments sur la gauche, et puis moi je vois une allée en fait qui permet de passer derrière les bâtiments sur la gauche, et l'allée, il n'y a pas de caisse, rien, on avance tout droit, et j'avance tout droit, et puis là vous sortez de l'aire de jeu, 3, 2, 1, vous êtes mort. Ok.
Et ouais, c'est à la 2012, petit fer.
C'est à la Battlefield en fait. Enfin, ils ont utilisé le même système de Battlefield, sauf que Battlefield, t'as des zones extrêmement larges.
Ah oui, mais là c'est un couloir. Hein. Ouais. C'est un couloir.
Mais c'est le même message d'alerte en fait. Même message d'alerte, peut-être qui est codé dans le moteur Frostbite.
Ah peut-être.
J'ai utilisé en fait.
Peut-être.
Mais je veux dire, à ce compte-là, tu fous des caisses devant la ruelle, tu laisses pas le mec y aller pour y crever, quoi. C'est pire qu'un mur invisible.
Ouais, c'est ça. Dandy Warhol, oui, on a des râleurs hein, cette semaine. Allez, on fait un com des com. On fait un com des com râleur. Dandy Warhol, je n'ai pas encore écouté le podcast, mais à la vue du sommaire, je ne vois aucune mention de la sortie de Hotline Miami. Rassurez-moi, ils vont en parler la semaine prochaine, au moins. Alors, la réponse était dans le sommaire. Mais bon, et une vraie critique cette fois...
Tu as plié, en fait, aux exigences
de
ton lectorat.
Oui, voilà, je n'ai aucune volonté. Une vraie critique cette fois, le traitement réservé à FTL, Faster Than Light, il y a quelques semaines de ça, ça m'est resté un peu en travers. Ok, il y avait beaucoup de jeux à traiter, mais Tekken, c'est un peu un marronnier, il n'y a pas de honte à survoler ces nouveautés. Un grand jeu qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus que les deux malheureuses minutes allouées à Clément en fin d'émission. D'ailleurs, à la lecture du forum consacré à cette émission, peu de participants mentionnent FTL et se concentrent surtout sur Tekken et Guild Wars.
Je veux bien en parler, hein.
Etc.
Moi, je pourrais en parler, vu que c'était un de mes jeux préférés de l'année.
Ouais, enfin, il finit une chronique en bonne et due forme de Hotline Miami dans la prochaine émission. On n'en parle plus.
Très bien.
Allez, on n'en parle plus, alors. Non, mais c'est vrai, ça nous arrive de parler de tel ou tel jeu.
Bah, FTL, voilà, on voulait en parler. On a réussi à le caser dans une émission qui était assez longue. Ouais. Donc, voilà. Donc, Faster Than Light, voilà, un roguelike dans l'espace. Pas très cher, donc on le reconseille.
On le reconseille si vous n'y avez pas essayé. C'est vrai que c'est pas cher. Et Mitrandir 3, alors lui qui a ouvert carrément un topic pour ça, parce que c'était vraiment un scandale absolu. Toujours rien sur Torchlight 2 ni Black Mesa. Si je n'ai rien loupé, c'est plus que limite, les gars. Non. Sérieux.
Ah, c'est vrai.
Concernant Black Mesa, on ne peut pas. J'aime bien les. Hein, on ne peut pas se dire fan des jeux indés et parler des trucs qui sortent sur Kickstarter et ne pas parler d'un reboot d'un jeu mythique fait par des passionnés pendant 8 ans. Deux points d'exclamation entre parenthèses. Et gratuit qui plus est. Ça mériterait presque une émission spéciale rien que là-dessus, car ça a autant d'importance que toutes les nouvelles sorties dont vous parlez abondamment.
Ouais.
On peut
en parler de Black Mesa.
Parlons-en rapidement. Black Mesa. Je suis désolé sur le rapidement, je vais encore me faire bâcher.
Ouais.
Mais bon,
non, Black Mesa, en fait, c'est un reboot fait par des fans de Half-Life. Donc Half-Life, ce FPS mythique, vraiment mythique, qui nous a tout, enfin tous ceux qui ont joué en tout cas, ça nous a tous marqué. Et c'est un jeu qui a un peu redéfini le genre entre technique, immersion,
narration,
etc. Ouais. Alors Black Mesa, moi je vais être un peu plus dur. Alors je l'ai aimé, mais Black Mesa en fait, donc c'est un reboot qui a été fait par des fans et qui normalement a pour but de le mettre un peu au goût du jour. C'est vrai que c'est gratuit. Donc c'est quand même, c'est pour tous ceux qui n'ont pas joué, on le tente, on le conseille, voilà. Sachant que Steam l'a poussé, donc il est disponible directement sur Steam. C'est assez simple l'installation. Maintenant, c'est vrai que on retombe. Alors d'après ce que j'ai compris, moi je suis pas allé jusqu'au bout, mais apparemment on va pas, c'est pas tout Half-Life qui a été refait.
Il manque la dernière partie du jeu, en fait.
Mais qui était la plus pourrie.
Oui, donc c'est pas une énorme perte.
On va pas, je crois que c'est la planète alien sur Xen, je crois, voilà, de mémoire. Mais Black Mesa, donc c'est un reboot, mais c'est vrai que quand on le lance, techniquement, c'est assez daté. Donc, c'est-à-dire que même si bon, il y a des choses qui sont un peu remises au goût du jour, c'est assez daté. On sent l'amour de l'artisan. On sent il y a des clins d'œil quand on fouille un peu. Il y a pas mal de clins d'œil. C'est très sympathique. Et c'est clair que ça joue à mort sur la fibre nostalgique. C'est clair que quand on a joué à Half-Life, au moins la première demi-heure, on est dedans et on se rappelle. Et c'est vraiment ça rappelle des souvenirs.
Ouais.
Maintenant, si on passe le côté qui soit gratuit, qui soit fait par des fans, il faut quand même dire ce que c'est quand même, bon, c'est stable, mais parfois le framerate chute, c'est compliqué, enfin, c'est, il y a quand même, il y a des soucis sur, il y a, parfois, l'immersion est un peu enlevée. Et c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que à l'époque, comme je le disais en intro, c'est que Half-Life, c'était un tout. Et là, par exemple, on n'a pas le tout. C'est-à-dire que il y a pas le côté immersion comme on pourrait l'être aujourd'hui dans un jeu d'aujourd'hui, en fait. Donc il y a un petit côté daté quand même. Alors
il y a un petit côté 8 ans pour ça, quoi. C'est,
ouais, mais
c'est réussi, hein,
bien sûr, t'as raison, mais c'est des amateurs, voilà, ouais, c'est des amateurs.
Non, je suis...
Patrick serait là, Patrick serait là, dire attends, ce jeu n'a pas.
Patrick serait là, souvenez-vous, Half-Life.
Non, mais c'est vrai que voilà, Black Mesa, c'est un vrai bonbon nostalgique, gratuit, donc on le conseille vraiment.
Et puis ils ont assez perverti le truc. Il y a parfois à droite à gauche des petites choses qui sont plus exactement les mêmes. C'est-à-dire tous les passages que tu connais par cœur, t'as des petits trucs qui changent. Et c'est assez sympathique, ça. Ne serait-ce que l'intro, le passage en tram, il y a des nouvelles animes, des nouvelles choses.
Et puis il y a aussi quelques. Ils utilisent un peu le moteur source pour avoir des nouvelles énigmes, mais pas énormes. J'en ai pas vu beaucoup, mais qui utilisent le moteur physique.
Un petit peu. Ouais.
Donc non, ils ont quand même travaillé. On sent l'amour du travail bien fait, on sent que Steam, enfin que Valve a apprécié ça, le refait, mais c'est pas non plus c'est bien, mais il faut savoir ce que c'est, il faut savoir à quoi s'attendre.
C'est gratuit, jouez-y, voilà, sincèrement, ça vaut le coup.
Black Mesa, donc à télécharger notamment sur Steam, et pour redécouvrir avec les graphismes de maintenant, presque.
De presque maintenant,
le tout premier Half-Life. Allez, on passe au tableau de peinture de Unfinished Swan. Unfinished Swan sur le PSN, c'est un jeu développé par Giant Sparrow qui a été poussé, un peu incubé par Sony lui-même, avec le support notamment du célèbre studio Santa Monica.
Pas qu'un peu,
qui a été vraiment incubé là-dedans. En termes d'image, on connaît Unfinished Swan depuis longtemps parce que ça a été une sorte de démo technique qui est passé de salon en convention pour montrer un peu ce projet étudiant à l'origine, hein, qui était basé sur la découverte d'un univers en 3D tout blanc, donc invisible, et qui se révélait en balançant de la peinture noire, en fait, sur les différents objets, sur les différents murs, pour pouvoir avancer. La démo technique date de 2008. Il y a eu du temps, hein, qui s'est passé. Je sais que toi, tu y as un petit peu joué en démo,
en salon. À l'E3 dernier.
Moi, j'y ai passé pas mal de temps. Est-ce que toi, tes premières impressions, ça donnait
quoi? Moi, je trouvais que techniquement, ça fonctionnait vachement bien. Mmh. Et même, finalement, tu peux créer un gameplay avec cette idée de peindre le décor pour avancer. Mais si tu le peins trop, du coup, c'est complètement noir et t'es tout autant perdu. Ce qui m'inquiétait, c'était que ça ne se renouvelle pas assez. Et il paraît qu'apparemment, c'est pas le cas.
C'est vrai qu'on commence. Alors moi, c'est une de mes expériences de début de jeu les plus étranges qui soient. J'étais à peu près au courant, hein, du principe de Unfinished Swan. Et donc, il faut re-régler, paramétrer sa move, la charger déjà, parce qu'elle est complètement déchargée vu que je n'ai pas utilisé des masses depuis sa sortie. Et puis, on finit par cliquer sur jouer, donc démarrer le jeu, et puis là on a un petit rond au milieu d'un écran blanc, Et moi, j'avais pas oublié le principe du jeu, mais je me suis dit, il y a un truc, il va y avoir une instruction appuyée sur ma... rien. Donc je me dis, putain, un temps de chargement quand même, un petit peu, un petit peu long. Et je relance le jeu quand même. Hein. Je vais pas jusqu'au bout, je relance le jeu avant de me dire, ouais non, il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc. Et là, appuyer sur la gâchette donc de la main gauche, hein, le move dans la main droite et le pad dans la main gauche. Et là, effectivement, le truc commence à partir sans aucune instruction. Et c'est vrai que il y avait un côté un peu magique comme ça au début du jeu. Et donc voilà, on commence à avancer, c'est super intéressant, l'univers, alors les premières images sont assez connues, hein. on commence dans un couloir qu'on révèle donc avec ces taches de peinture noire, et puis on arrive dans un monde un peu ouvert où il y a une mare, où il y a un crapaud qui va sauter dans l'eau, des poissons, et il y a ce signe, il y a les pas du signe pas fini, donc qui donne un peu la direction à où avancer, et puis là on arrive dans un château, on arrive dans des salles, on révèle des statues comme ça en peignant. Alors c'est vrai que
ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un jeu d'aventure au-delà de la technique en fait. Ça ressemble à un jeu, si on devait le, ou ça ressemble à un jeu de cognon, pas du tout.
Ça ressemble à un jeu indé PC en fait. Ça ressemble à cette espèce de proto de jeu indé qu'on peut trouver un peu partout.
Alors je parlerai ensuite de la suite, mais c'est exactement ça. En fait le principal problème de Unfinished Swan, c'est que on sent le côté expérimental gameplay derrière. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de cette plateforme qui a vu naître Crayon Physics et World of Goo, mais il y a ce côté vraiment expérimental. C'est intéressant, c'est un nouveau gameplay, donc c'est une nouvelle manière d'avancer dans un
univers 3D. Qui se joue aussi, si vous n'avez pas de move, rassurez-vous, ça se joue aussi juste à la manette.
Oui, ça se joue juste à la manette. Et c'est ce côté-là. On avance, on découvre un gameplay, mais finalement l'histoire, l'univers narratif est complètement inintéressant. C'est un des gros soucis. Inintéressant, voire caricatural. Je m'explique, c'est quand on a joué à Limbo c'était cool. Limbo, petit garçon.
Non mais alors Pipo il aime pas, mais c'est vrai que c'est un des meilleurs jeux qui existait d'ailleurs.
C'est un très bon jeu d'aventure, mais niveau narratif, j'ai rarement vu un jeu qui se touchait autant que Limbo. Quoi.
Ouais, bah déjà.
Mais c'est agréable l'onanisme parfois. Dire,
Le mien oui, mais celui des autres devant moi non, aucune envie.
Mais c'est un mélange. Il y a du Limbo, il y a du Braid, parce qu'on sent que on nous raconte une histoire, mais il doit y avoir un message caché, un truc. Alors grosso modo, voilà. Alors déjà le début, le petit enfant, sa mère aimait beaucoup peindre, mais elle ne finissait aucun tableau. Et quand sa mère est morte. Tu vois, déjà, au bout de 10 secondes, sa mère est morte, déjà. Il a eu le droit d'emmener qu'un seul tableau pas fini à l'orphelinat. Oui, petit enfant, à l'orphelinat. Il a pris donc celui, le tableau du signe pas fini, de Unfinished Swan. Et finalement, un jour, il voit le signe qui s'enfuit. Et il va à sa poursuite avec le pinceau de sa mère. Et puis, voilà. Bon. Voilà, on arrive dans un univers. Après, on arrive dans un univers façon conte de fées avec un roi un peu fou qui fait un peu n'importe quoi avec son peuple, qui peint tout en blanc, tout ça. Et on n'arrive pas à aucun moment à être ni même, enfin, transporté, pas du tout, et intéressé même pas à l'histoire.
Si on fait abstraction de l'histoire, ça peut marcher, non?
Si on fait abstraction de l'histoire, c'est un jeu indépendant de gameplay expérimental.
Donc ça vaut pas son prix. Parce qu'il est pas très cher.
Il est 13 euros. Alors bon, ça vaut pas son prix, je sais pas. C'est 4 heures de jeu à peu près à vue de nez. Je sais pas. Enfin, ça dépend. Voilà, il vaut 13 euros. C'est des expériences. Donc il y a pas que la peinture. Le niveau suivant, on balance de l'eau. Alors j'ai pas trop envie de déflorer comme ça tous les types de gameplay parce que c'est intéressant. Mais il y a des niveaux et même au niveau 4 ou 5, il y a un nouveau type de gameplay qui là devient plus complexe. Un peu plus bordélique et moins intéressant presque parce qu'il est moins maniable, où on crée des objets en 3D.
Mais
en fait,
est-ce qu'on n'est pas un peu dur par rapport aux attentes qu'on avait mis dedans du fait que c'était un jeu poussé par Sony, parce qu'on les connaît, les jeux poussés par Sony, c'était quand même Journey.
Bah voilà,
c'était des gros jeux, enfin des jeux qui étaient,
moi,
brillants.
J'ai pas été dur, par exemple, avec Papo Ennio, qui avait plein de soucis, mais que moi j'ai beaucoup aimé. Mais
ne parlons pas de Papo Ennio ici.
Tu n'aimes pas, c'est ça?
Non, c'est terrible. J'ai payé 15 euros pour la psychanalyse de quelqu'un d'autre et ça m'a énervé. C'était horrible.
Un peu d'empathie.
Pas pour Papo Ennio.
Moi j'avais beaucoup. Moi c'est un truc qui m'avait vraiment intéressé. Et il y a. maintenant aujourd'hui on a plein de jeux qui proposent comme ça, bah on parle de Journey ou de tous ces trucs de That Game Company, enfin voilà, on a des expériences et esthétiques et mécaniques de gameplay et qui vont chercher la nouveauté mais qui ou mettent en plus
comme Botanicula aussi
qui enrobe le truc avec qui en font un vrai objet cohérent, massif, voilà, le jeu indé c'est aussi ça, et c'est pas parce que c'est indé, parce qu'il propose des choses bien que faut le mettre sur un piédestal, il manque des choses dans Unfinished Swan.
Mais justement, quand au moment tu parlais de la narration un petit peu pourrie de Unfinished Swan, moi j'avais Journey en tête, qui justement est un jeu avec un vrai gameplay consistant, un vrai level design et une narration hallucinante sans une seule ligne de texte, et pourtant il y a une narration qui est dingue et qui fonctionne quoi.
Ouais, non mais tout à fait. Donc voilà, Unfinished Swan, 13€ sur le PSN, qui télécharge quand même toujours à une vitesse absolument dramatique.
Ah, les serveurs de Sony. Toujours
c'est
un vrai bonheur.
C'est un drame, quoi. C'est un drame. Moi, ça, j'ai mis 3 heures avant de pouvoir jouer à ce jeu. C'est quand même un petit peu pénible. Allez, on passe au jeu de la semaine. Et il n'y a pas photo. Hotline Miami, avec notamment, on va en parler, mais sa bande-son mémorable. Hotline Miami sur PC, c'est un jeu de Denaton Game qui est en fait l'alliance de Jonathan Söderström alias Cactus et du designer, j'ai mes notes, Denis Wedin. C'est un peu le jeu phénomène du moment, jeu indé, purement indé, enfin une pure construction indépendante. Là, y a aucun doute. De toute façon, aucun éditeur n'aurait décemment financé un projet comme ça. C'est un tort d'ailleurs.
À tort d'ailleurs, puisque le jeu a plus de 85 sur Metacritic, apparemment le seuil pour donner une prime à son équipe. Donc.
C'est vrai. J'avais vu ça. C'est pas arrivé discrètement. Hein, c'est pas arrivé discrètement. Il a eu le prix Game of the Show du salon Raised, le salon organisé par Eurogamer au Royaume-Uni. Donc voilà, grosse reconnaissance avant même la sortie.
Je crois même qu'ils se sont fait sortir d'un salon, je crois que c'était à la Gamescom. Ils s'étaient fait sortir du stand de Steam ou Valve parce qu'ils faisaient jouer leur jeu à des gamins et tout.
Voilà, voilà. Alors on va parler de Hotline Miami. On nous l'a demandé, hein, comme ça a été dit dans le com des coms. Première prise en main de Hotline Miami, ça donne quoi? Tiens, Clément, ça donne quoi la première prise en main de Hotline?
Bah moi, elle était très difficile. Très difficile parce qu'en fait, c'est un jeu qui se joue qu'au clavier. Alors moi, je m'attendais parce que
clavier souris.
Et moi maintenant mon PC, je raconte ma vie, je l'ai mis sur ma grande télé et donc je joue normalement avec Steam au mode
Big Picture.
Et là, avec ma manette, j'ai compris que ça marchait pas. Donc, je savais pas pourquoi. Et en fait, compliqué aussi, parce que problème de QWERTY. Donc, en fait, il faut voir comment on joue au jeu. Donc, on joue un peu comme un FPS, c'est-à-dire que pour se déplacer, on joue avec les touches ZQSD de mémoire. Avec la souris, le clic gauche, on frappe avec ce qu'on a, un point, une barre à mine, enfin, et tout objet contondant qui peut exploser une tête avec beaucoup de sang.
Ou on tire avec des armes.
Bouton droit, ça permet d'utiliser, d'interagir avec le décor. Et en fait, il y a deux trucs dont toi t'avais pas vu. Enfin, voilà. C'est qu'en fait, le shift.
Si ça, j'avais vu
le shift. Voilà, le shift permet de voir les ennemis. Et en fait, le clic de la molette permet de locker en fait une cible. Alors au début, moi, j'ai vu quelques vidéos. Je voyais la personne débouler, comme tu le disais, c'est-à-dire. Comme un Ryan Gosling sous speed pour tuer un peu tout le monde. Et moi, j'ai commencé ça et je me suis fait exploser tout de suite. Alors je me suis dit, attends.
T'as été blessé dans ton égo.
Un petit peu dans mon orgueil.
On rappelle quand même que c'est un shooter top-down, oui. Donc vu du dessus, pixelisé. C'est très stylisé aussi sur un univers qui est censé se situer à Miami en 1989.
Couleur néon.
Voilà, très néon, très.
Et très drogue quoi, ouais. Enfin, c'est Miami 89 mais avec du LSD quand même un peu partout.
Voilà, donc ces scènes là, donc on dirige le mec, ça va très très vite et il faut avec un objectif qui peut être récupérer une mallette à l'autre bout du niveau ou buter tout le monde.
Généralement c'est ça. Hein.
C'est un objectif tout à fait crédible et on se lance là-dedans et on meurt.
Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu type du die and retry, c'est-à-dire qu'en fait, c'est normal de mourir, il faut pas que son ego soit blessé, c'est normal et on recommence. Et en fait, comme tu le disais un peu, c'est un peu le côté Super Meat Boy, c'est-à-dire que on apprend au fur et à mesure les patterns. Et mais ceci dit, moi j'ai pas encore eu le déclenchement. Moi je me sens encore assez frustré. J'ai pas encore eu les bons timings et les bons feelings pour pouvoir faire ce que je veux faire. Voilà.
Des clics mémoire musculaire en fait, où ça y est, t'arrives dans une pièce, t'exploses tout le monde.
Voilà, moi en gros, parfois j'arrive, je dis, lui, je vais démonter la tête, j'arrive, je le loupe et je me prends un coup de couteau et hop, je suis mort. Non, voilà, ça m'arrive assez souvent.
Parce qu'on meurt en un coup,
c'est ça que je veux dire aussi.
Alors, on va rappeler, enfin, c'est une des remarques, c'est une des premières remarques, voilà, c'est Hotline Miami, c'est au shooter, enfin, au shoot 2D, ce qu'est Super Meat Boy au jeu de plateforme en fait. Hein, c'est vraiment du die and retry quasiment chorégraphique, c'est-à-dire qu'on doit apprendre les pas de danse petit à petit jusqu'à finir le niveau, jusqu'à connaître la chorégraphie finale sur le bout des doigts, et ça empêche pas de se planter, de se replanter au premier saut dans Super Meat Boy ou au premier méchant dans Hotline. On découvre les niveaux comme ça, pas que visuellement mais en termes de gameplay, en termes de lequel on va buter en premier, puis lesquels et le point commun aussi avec Super Meat Boy, c'est la touche rejouer immédiate. Voilà. Et ça c'est le point peut-être le plus important, c'est la non-frustration de mourir et de recommencer encore une fois un niveau.
Oui, il peut quand même y avoir de la frustration quand même. Hein.
voilà, c'est basé là-dessus aussi.
Mais effectivement, comme Super Meat Boy, moi, ça fait partie des jeux que j'appelle les jeux solo qui sont meilleurs à deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu solo.
Chacun.
Voilà, et on chacun une vie et puis on chambre l'autre parce que voilà, il meurt au bout de 2 secondes. Et voilà.
Alors, Pipo, première prise en main.
Assez rude aussi, parce qu'en fait, plus que la difficulté à manier, c'est vraiment que tout va très très vite. Et il faut aller aussi vite que la musique si on veut survivre.
Ouais.
Et les ennemis, dès qu'ils entendent un coup de feu, ils débarquent à 6 sur toi et t'as ta pauvre baramine et tu te fais. Enfin, t'as 6 mecs avec des calages devant toi, tu te fais étrier en 2 secondes. Et il y a vraiment effectivement une mémoire, des patterns à apprendre, comme dans Super Meat Boy,
ouais.
Où au final, après avoir fait 100 fois un niveau, et ne pas l'avoir passé d'ailleurs, comment on peut faire le début les yeux fermés, bah là c'est pareil en fait. On sait que tel garde va là. Et à moins de se faire repérer et de là donc déranger un petit peu cet ordre, ça va toujours être dans le même sens. Ils font leur même ronde, etc. Il n'y a pas vraiment de beaucoup de place au hasard. Mais quand c'est la merde et qu'il faut improviser, je trouve que ça fonctionne quand même très très bien justement. Parce que il y a le mec qui est au chiottes, bam, coup de fusil à pompe, j'explose la tête contre les chiottes, je prends sa mitrailleuse, je vais tuer 3 gars qui sont là-haut, le chien m'a entendu, je prends une batte, j'explose le chien, il y a un couteau qui traîne par terre, je l'envoie dans la gorge du mec. Et il me reste encore un étage ou deux à nettoyer.
Voilà, alors sachant qu'il y a un checkpoint à la fin d'un étage, quand même, on recommence pas tout le niveau à chaque fois.
Mais c'est vrai que dit comme ça, on a l'impression d'un jeu ultra violent, ce qu'il est, ceci dit.
Il est ultra violent.
Mais c'est de la violence vraiment stylisée, typé jeu vidéo old school, donc c'est pas du tout. Elle marque pas autant que.
Je pense que si le jeu était sorti en 3D, se voulant réaliste, ça aurait été. Ça aurait fait un énorme scandale.
Ouais, à la Manon, par exemple.
Mais là, effectivement. Ouais. Il y a aucun problème. Et puis surtout, il y a toute une ambiance autour. Et ça,
voilà, c'est ça qui est marrant, c'est que la musique. Parce que moi, au début, dans mes problèmes de configuration de clavier, bah, j'ai laissé le jeu tourner. Et puis voilà, en 3 heures, la musique qu'on entend en fond, moi, elle me berçait bien. Merci, ouais. merci Florent.
Oui, non, mais la musique hein, qu'on entend toujours en fond, là, c'est le morceau principal qui dure 10 minutes. Ça nous aide bien là pour le coup. On en réécoutera un morceau tout à l'heure. C'est vraiment ça, ça contribue à toute cette ambiance très drive, très 1989, avec quand même, le mec, il va en DeLorean
faire
ses missions, quoi. D'ailleurs. On regrette un peu l'absence de Patrick hein, ici, parce qu'on parle quand même d'un jeu avec une DeLorean sans Patrick Hélio, hein, ce qui est quand même.
Il aurait probablement pleuré de joie.
Ouais, il aurait quand
même.
Il faut rappeler, nous on aime bien ce type de jeu là, mais le Die and Retry c'est quand même un type de jeu particulier qui peut frustrer beaucoup de personnes. Hein.
Alors je pense qu'il va y avoir des souris et des claviers pétés. Ouais.
On continue quand même à décrire, parce que c'est un jeu. Il y a une vingtaine de niveaux où on doit buter tout le monde. On réessaye entre moi. Je sais pas, c'est 100, 150, 200 fois chaque niveau avant d'en arriver à bout. Il y a il y a cette histoire de masque qui appelle. Voilà. Parce que alors le personnage, le jeu commence, on voit son personnage qui arrive dans une salle, il se retrouve face à trois personnages, donc un avec une tête de cheval, l'autre avec une tête de coq, l'autre avec une tête de hibou, qui lui parle d'un truc, on capte rien du tout. Après, il débarque chez lui, il y a le téléphone qui sonne, il a sa mission et hop, on est parti. Voilà, ça se passe comme ça.
C'est ça.
C'est complètement, on est très rapidement dans l'action et avant chaque mission, le personnage, le héros choisit un masque à mettre. Donc, et chaque masque a une particularité. Alors, le masque de Don Juan,
qui est le cheval, parce que ce sont que des masques d'animaux.
Voilà, que des masques d'animaux. Le Don Juan, qui est le cheval, permet d'ouvrir des portes en butant directement le mec qui est derrière. Très pratique. Mais il y a aussi des masques qui permettent de faire des silencieux, des fusillades silencieuses.
T'as le masque de loup qui fait que tu commences direct avec le couteau, je crois. Ouais. Tu as des buffs d'attaque et de défense. Enfin, qui sont donnés par les masques que tu débloques en finissant des missions et en faisant un très bon score. Il ne faudra pas oublier de parler du scoring.
Voilà, c'est aussi un jeu de
scoring. Tu
débloques
aussi des armes avec le scoring. Et donc, en fait, oui, voilà. Il y a un scoring qui est sur le temps que tu mets à faire un niveau, ton efficacité et surtout à quel point tu es versatile en fait, à quel point tu peux t'adapter aux situations quand c'est la merde. Et c'est ça qui est super
et
intéressant.
Et à faire des combos aussi. Oui, ça, c'est super important. Et c'est difficile parce que le temps est très limité pour faire les combos. Ouais. Et les combos se cassent super vite.
La fenêtre est toute petite. Ouais.
Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Il y avait d'autres choses.
C'est qu'il y a quand même tout un scénario, toute une ambiance. Donc on a ces personnages avec des masques bizarres. Mais au-delà de ça, il y a une construction qui est toujours la même, qui est on se réveille dans son appartement, musique un petit peu entêtante, ça poisse quoi. On sent que ce n'est pas une chambre où on voudrait aller. On répond, il y a un message sur le répondeur, c'est une mission, on va tuer des gars. Et ensuite, on va toujours dans un autre endroit, que ce soit louer une cassette, louer une VHS, aller choper une pizza, passer à l'épicerie. Et c'est toujours la même personne qui à chaque fois, qui arrive et qui dit « Ah, bah, je t'ai gardé ton film préféré de côté. Tiens, maintenant, tu paieras une prochaine
c'est
fois. »
hyper bizarre. «
Tiens, voilà une pizza. » Et c'est toujours le même mec et il est super sympa. C'est assez étrange.
Il y a un côté psychédélique complètement dingo sur le truc. Moi, j'ai quand même été un peu frustré sans l'avoir fini. Hein. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Il y a une vingtaine de niveaux. Je les ai pas... J'ai bien avancé, mais je suis pas à la fin. Et même sans y être arrivé, je suis quand même un peu frustré par avance du nombre de niveaux limités. Je m'explique, c'est par exemple dans Super Meat Boy, il y avait ce côté où on devait acquérir un skill Super Meat Boy, mais avec cette sensation d'avoir des plein de niveaux.
Il y en a quelque chose comme 300. Voilà, sans même compter les DLC et l'éditeur.
Avoir 300 niveaux pour profiter de ce skill que tu as acquis, alors que là, on a l'impression qu'on va quand même, même là encore, j'ai encore à apprendre. Hein, même il y a des nouvelles armes, il y a la moitié des armes à débloquer, il y a ce genre de choses. Et que le fait qu'il n'y ait que 20 niveaux, ça limite un peu l'ampleur du jeu.
C'est peut-être
en fait
là où tu rejoues au niveau avec du scoring. Moi pour l'instant, j'ai
et
pas
avec les masques en fait que tu as débloqué, tu vas pouvoir.
Mais pour l'instant, moi j'ai pas ressenti le scoring. Moi, m'a pas poussé en tout cas. C'est pas
juste les créateurs ont dit un more will come sur Twitter.
Si on peut juste citer en fait ce qu'il a fait sur Pirate Bay, c'est ça.
Alors c'est sur Pirate Bay donc Cactus, hein, Jonathan Sennerstrom. Et a ouvert un topic sur le site pour dire bon alors les mecs j'ai patché mon jeu parce qu'il y avait encore plein de bugs et si vous le piratez ben voilà il y a une nouvelle version donc mettez au moins la nouvelle version en torrent histoire que vous puissiez jouer au jeu en bonne qualité.
Voilà,
ça super classe.
Il a fait son SAV sur le site de Pirate qui apparemment
qui a fait un très bon coup de pub puisqu'il est passé sur des sites genre Develop, peut-être même IGN et tout ça. Donc ça vaut le coup. Non mais oui quelque
non,
part
non, mais
oui.
Il a dit je veux pas, je suis pas pour que les gens piratent mon jeu, mais s'ils le font au moins qu'ils jouent un bon jeu.
Voilà
Donc Hotline Miami, on pourra encore en parler longtemps. On va essayer d'avancer pour ne pas mettre en difficulté notre super ingé son qui a fait ce système de live. Oui, en fait, si vous écoutez le truc, si on s'en joue était en live sur Dailymotion, c'est bizarre comme expérience. On va quand même écouter un autre morceau de cette bande son de Hotline Miami qui déchire quand même. We'll be right back. Et donc on précise, oui, vous pouvez écouter toute la bande originale sur SoundCloud, c'est aussi dans un répertoire en .org quand vous avez téléchargé le jeu, et autrement c'est sur Bandcamp aussi, il y a plusieurs morceaux à télécharger. Enfin voilà, vous pouvez, elle est très très bien.
Elle est fantastique.
On va accueillir maintenant, comme chaque semaine, Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan, depuis le début de la saison, je n'arrête pas de vous monter les mérites de jeux à base de conquête spatiale, de gestion de ressources, d'intelligence pure. Eh bien, il suffit, car dans la vie, il faut savoir rigoler, il faut savoir s'amuser. C'est pour ça que cette semaine, je vous ai choisi un petit jeu de rigolade qui répond au nom de C'est pas faux. C'est un jeu signé Bruno Catala et Ludovic Maublanc, un jeu édité par des Canadiens, des Québécois en l'occurrence, Le Scorpion Masqué. C'est un jeu pour 3 à 10 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'une vingtaine de minutes. Quand on dit 10 joueurs, on n'est pas loin du party game. Et c'est ce qu'est C'est pas faux, c'est un party game pour jouer avec plein d'amis que vous avez, mon cher Erwan. Alors, de quoi donc il est question et comment fonctionne ce C'est pas faux? Eh bien, c'est une petite boîte dans laquelle vous allez trouver des cartes et uniquement des cartes. Et l'avantage des cartes, mon cher Erwan, c'est qu'il y a un recto et un verso, oui. Et les deux auteurs ont utilisé ce recto et ce verso. Donc, c'est un jeu avec un émetteur. Il va y avoir un paquet de cartes. Le joueur émetteur va prendre ce paquet de cartes. Sur la face verso, il y a des questions. Il va choisir une des questions. Il va poser cette question à l'auditoire. Puis, il va montrer le dos des cartes qu'il a encore en main. Et ce dos des cartes va vous indiquer si vous devez répondre correctement ou pas correctement à la question. C'est-à-dire que ce dos des cartes comporte parfois le mot vrai, un rond vert ou un tête de premier de la classe. Là, il va falloir répondre correctement à la question. Ou alors, il y a marqué faux ou un rond rouge ou un bonnet d'âne. Et là, il va falloir répondre de travers. Forcément, là, vous commencez à capter un petit peu l'idée. C'est-à-dire que ça va très, très vite, surtout si vous êtes nombreux. Il faut faire l'association d'idées. Il faut savoir. La première réponse qui va vous venir, ça va être forcément la bonne réponse. Mais parfois, vous allez vous rendre compte qu'il faut donner autre chose et il faut trouver une mauvaise réponse qui reste dans le sens de la question. C'est-à-dire que si la question est, quelle est la couleur du lait? S'il faut répondre correctement, vous répondez blanc. Mais s'il faut pas répondre correctement, vous ne pouvez pas répondre voiture. Il faut répondre une couleur, donc rouge. L'exemple que je vous ai donné est assez facile, hein. Mais les questions sont très variées. Donc parfois, c'est un peu plus compliqué. Et il y a un petit piège à l'intérieur. Il y a des questions stupides, des questions qui n'ont pas de sens, comme par exemple, quel est le nom d'un des nains qui entoure Cendrillon? Et là, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de nain autour de Cendrillon. Donc, il faut répondre rapidement, c'est pas faux. Donc, c'est un jeu de rapidité, c'est un jeu d'association d'idées, puisque tous les joueurs vont répondre en même temps. Celui qui a répondu correctement, c'est-à-dire, attention, correctement, c'est-à-dire vrai quand il faut répondre vrai ou faux quand il faut répondre faux, ou c'est pas faux quand la question est absurde, celui-là gagne la carte et c'est un point positif. Si vous avez répondu de travers, c'est-à-dire que vous avez répondu vrai quand c'est faux et faux quand c'est vrai et faux quand c'est pas faux, de vrai, là, vous récupérez la carte si vous êtes le premier et c'est un point négatif. Bref, à la fin de la partie, où on s'en sort autant, les points négatifs, les points gagnants, on s'en fout, on est là pour déconner, c'est un jeu pour rigoler, mon cher Erwan. Sinon, à quoi ça sert la vie? Ça s'appelle C'est pas faux, c'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc par le Scorpion Masqué. Pour 3 à 10 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 20 minutes, ça va vous coûter 10 euros. Et qu'est-ce que c'est 10 euros pour passer un bon moment avec ses copains? Je vous le demande, mon cher Erwan, et moi je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall, très 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 en forme hein, cette semaine, et je pense que si ça enregistre ou pas, je ne sais pas. Oui, ça enregistre. Oui, très en forme, Monsieur Fall. La minute culturelle rapide, parce qu'on est on est très pressé, mais je veux quand même, parce que Marmotte 19 m'en a envoyé deux, donc une spéciale nom de studio. À l'origine, de quoi provient le nom Ubisoft, hein?
Ah mon Dieu. Il y a un truc avec breton dedans, non?
Ah oui, c'est ça, hein. Peu, oui. Il s'agit de UBI, c'est l'Union des Bretons Indépendants. La société a en effet démarré son activité en Bretagne, son siège social étant situé à Rennes. Quel nom Gab Newell et Mike Harrington ont-ils failli choisir à la place de Valve?
Ah, ça, je sais pas du tout.
Non. Il s'agissait de Hollow Box. Et ouais. Oui, et oui. D'ailleurs, toujours sur Valve, quel jour Valve a été créé? Quel jour de la semaine?
Ça, c'est un jeudi.
Ça, c'est bien comme question.
Allez, un vendredi.
J'adore. Non, il s'agissait d'un samedi. Ouais. Et oui, c'est le plus important qu'il n'y paraît de prime abord. C'est le 24 août 1996. Les documents concernant la création de la société sont signés ce jour-là, soit le jour du mariage de Gab Newell. Oh. Et oui, d'où vient le nom Capcom?
Capsule Computer.
Ouais, pas mal. Capsule Computer. Comment s'appelait au moment de sa création en 1978 SNK?
Au moment de sa création. Oh oui. Ah, New Japan. Non, c'est ça.
Pas mal. C'était le nouveau projet japonais en français.
New Japan Shin.
Shin Nihon Kikaku.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'était SNK. Et voilà. Et d'autres questions qu'on passera la semaine prochaine, parce qu'autrement, on n'aura pas le temps de parler. D'ailleurs, on va peut-être presque pas en parler, mais on va aller quand même l'évoquer, parce que c'est en ce moment même à Paris, porte de quoi? Versailles.
Versailles.
Porte de Versailles, c'est le Paris Games Week pour la troisième. troisième édition, c'est ça
Peut-être même plus, non.
Plus, ouais.
Ah, je suis pas sûr. Avant,
4 ou 5, je pense.
Avant, c'était
oui, le festival de jeux vidéo.
Bref, donc Clément, t'as mis un pied, ça donne quoi?
J'ai mis même les deux pieds.
Oh,
attention.
Quel courage.
Quel courage.
Non, en fait, c'est particulier parce que, en tant que presse, nous, on a été invités à la soirée presse, donc on a vu dans des conditions idéales. Ce qui est marrant, c'est-à-dire que, quand même, on sent qu'on est en pleine crise. C'est-à-dire qu'il y a, le salon est plus resserré. Il n'y a pas Sega, il n'y a pas THQ, il n'y a pas Tech2, il n'y a pas Rockstar.
THQ existe encore ?
Oui,
si. Oh, ouais.
Il n'y a pas Rockstar, il n'y a pas Disney, il n'y a pas, voilà, il y a Sega, je l'ai déjà cité. Mais en fait, il y en a plein qui ne sont pas là. Et après, les jeux, c'est un salon particulier. C'est-à-dire que c'est vraiment un salon fait pour faire son shopping de Noël, savoir quoi acheter. Il y a très peu de nouveautés. C'est-à-dire qu'en gros, bah, voilà, il y a un stand Fnac au milieu pour faire ses emplettes. Donc c'est vraiment axé fin d'année.
Maintenant, c'est pas un salon consumer, quoi. C'est
vraiment
pour les clients plus que pour
la
presse.
Salon consumer. Maintenant, alors si, en chose intéressante, il y a la Wii U qui est jouable. En tout cas, pour deux de ses gros titres, Nintendo Land et Mario, des autres, il y a un peu moins de Wii U disponibles. Maintenant, moi, j'ai vu ce matin, on va dire, quand, une fois ouvert au public, les files d'attente sont interminables, mais vraiment interminables.
Du coup, toi, tu avais une estimation,
même,
j'ai vu, donc, ce qui m'a outré ce matin, il y avait 6 heures de queue pour jouer à Black Ops 2.
Ok, sachant qu'on est mercredi en jour de semaine,
et qu'en théorie, c'est le temps qui suffit pour finir le. Ah oui, c'est vrai que c'est les vacances.
Mais
en théorie, 6 heures étant le temps nécessaire pour finir le mode solo, et pour un jeu qui sort dans 10 jours, enfin, ça m'a un petit peu choqué.
Non, et puis c'est quand même. Et puis l'entrée quand même à 14€, donc c'est pas rien quand même. Donc,
c'est spécial.
Voilà. Donc c'est un salon en période un peu de crise des éditeurs, etc. Il y a peu de jeux. En tout cas, pour les gamers, enfin, vraiment, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, il y a pas grand intérêt, à moins de vouloir mettre ses mains sur la Wii U.
Bon, en tout cas, voilà, c'est Porte de Versailles, c'est 14€ pour faire 6 heures de queue pour jouer à Black Ops 2. Si vous voulez y aller, vous pouvez.
Ce sera sans nous.
ce sera sans nous. Si moi j'y vais le jeudi.
Il y a Altminds à voir. Si, il y a quand même aussi Altminds. Il y a quelques titres. Il y a SimCity aussi à voir aussi.
SimCity, c'est toujours
chouette à voir.
Mais ouais. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de monde.
Allez, c'est fini pour cette semaine. C'était en live sur Dailymotion. Waouh! Et la question rituelle à laquelle vous n'avez pas échappé, mais à laquelle vous allez répondre très rapidement. Quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément? Qu'est-ce que tu fais, hein?
J'ai lu un bouquin extrêmement connu qui parle un peu de sexe et de sadomasochisme, mais très très léger. Oui, j'ai lu 50 nuances de Grey, mais je l'ai lu.
Tu es donc une ménagère.
J'ai lu en anglais. Oui, mais il fallait, tu sais, pour mon site, il fallait que je connaisse un peu, etc., ce qui marchait. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi un bouquin d'amour dans lequel.
Enfin,
non, mais c'est vrai.
Du porno quand même.
Pff, pas du tout.
Ah bon?
Non, mais c'est hyper léger. Non, mais c'est vrai. C'est extrêmement léger. Bon, si, il y a des scènes de sexe. Non, il y a des scènes de sexe, mais c'est pas.
Tu peux pas dire ça, Clément.
C'est
la régie. Mais 50 Shades of Grey, excuse-moi, c'est du SM. C'est du SM bas de gamme, mais c'est du SM.
C'est du.
Fais pas croire que c'est du harlequin.
Non, en fait, c'est son quotidien. Donc
non, mais c'est.
Je veux rien savoir de ta vie.
Non, mais c'est polisson. Non, non, mais
ça démarre doucement, mais à mon avis, t'as pas dépassé la page 100. Mais à la page 100,
non,
non, commence à se faire clouer au mur.
Non, moi je suis pas d'accord. Je trouve vraiment que c'est pas du sad, c'est pas de l'histoire d'eau, c'est machin, c'est polisson.
Ce n'est pas littéraire. Ça,
c'est pas littéraire. Il faut savoir que moi, donc, j'ai appris du coup en le lisant qu'en fait à la base c'était une fanfiction de Twilight.
Ouais. Oh mon dieu.
Et quand on laisse entre vous les garçons.
Et quand on sait ça, voilà, c'est assez limité. Alors après, c'est pas, voilà, je veux dire, moi j'ai pas eu de demi-molle, voilà, donc c'est... non mais vraiment c'est assez particulier et c'est en gros c'est l'histoire. Est-ce que le mec va tomber amoureux d'elle, etc. C'est plus un truc d'amour au fond qu'un truc SM. quoi qu'on
dise,
Florent. Je conseille pas. J'étais assez déçu par rapport à l'attente que j'en avais.
Voilà. Bon. Pipo.
Bah alors donc je vais avoir l'air d'un grand garçon après ça puisque je vais parler de la nouvelle série des Tortues Ninja qui est sur Nickelodeon aux US pour l'instant et qui devrait un jour arriver en France. Et c'est juste que voilà, j'avais très très peur après des reboots un peu foireux de la série. Là, ça a une patate dingue, c'est super drôle.
C'est animé, c'est un dessin animé.
C'est en CG en fait, ça fait très bizarre au début. Passer le générique vraiment tout naze et les premières minutes à voir les Tortues Ninja en 3D, ça fait très très bizarre. Mais en fait, les dialogues fonctionnent, sont super bien joués, donc du coup les vannes tombent bien. Les séquences de baston, il y a des trucs de mise en scène, mais on dirait des trucs de Kill Bill, un truc pour les mômes. Vraiment, je le conseille parce que c'est super chouette.
D'accord. Et moi, j'ai commencé enfin la cinquième saison de Sons of Anarchy. Je ne cesserai de conseiller cette série. Et dans la cinquième saison, ils ont décidé, parce que c'est déjà pas une série de bisounours, mais là, pour le coup, d'aller dans l'ultra-violence. Et ça vaut vraiment le coup. Enfin, moi, j'aime beaucoup le début de la cinquième saison.
C'est vrai, Kathleen Miami en plus.
Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo.